Le Grand Matin Week-end Sud Radio, 7h, 10h, en direct du Salon de l'Agriculture, Philippe Verdier.
Ah, puis on s'est amusé à décliner un petit peu tous nos rendez-vous habituels du Grand Matin Week-end avec cette tendance agricole. Pierre-Maël Tisnes, l'actu ne s'arrête jamais, va s'intéresser aux réseaux sociaux et à des comptes... bureau.
Des comptes animaliers, agriculteurs, non, vraiment, on a regardé un petit peu Twitter, on a fouillé un petit peu et on a relevé quelques comptes, effectivement. Ils sont beaucoup plus présents qu'on ne le pense sur les réseaux sociaux, les agriculteurs. Ils n'ont pas que la tête tournée vers la terre.
Il n'y a pas que les agriculteurs qui ont des comptes sur les réseaux sociaux.
Non, on le verra aussi.
Les vaches également,
les vaches également sont très connectées. Ouais.
Voilà, on en parlera également. Quelles sont les solutions qu'ont les entreprises agricoles justement pour lutter contre la crise? Il y en a, et notamment c'est dans le digital et avec beaucoup de bon sens qu'on peut trouver de très très beau projet, on en parlera dans quelques instants avec notre invité. Et puis Jeanne Bordeaux sera également avec nous. Elle scrute, vous le savez, notre façon de parler. Elle s'intéresse au mot naturellement qui s'imposait pour ce Grand Matin Week-end. C'est le mot campagne, avec un double sens naturellement, la campagne de l'agriculture. Mais 2017 oblige, la campagne présidentielle prend aussi tout son relief ici au Salon de l'Agriculture. Pascal Gallet sera avec nous au piano également. Alors on n'a pas apporté le piano forcément dans le Salon de l'Agriculture, on écoutera Pascal tout à l'heure. Et puis notre invité, c'est Ronan Chastelier, il sera avec nous dans une dizaine de minutes. C'est une voix que vous connaissez bien sur Sud Radio puisqu'il anime avec Olivier Monsens ses tendances. Et bien Ronan a une idée géniale, il a créé un magazine qui est très glamour, qui est très intéressant, qui s'appelle Life and Farm. Il viendra nous en parler. C'est un cadeau qui est remis gratuitement à tous les visiteurs du Salon d'Agriculture et ils sont encore très nombreux cette année. Mais comme d'habitude, on s'intéresse à la une de vos quotidiens pour commencer. Le journal du dimanche qui s'intéresse à la justice, elle prend de plus en plus de place dans la présidentielle et ce sont les juges contre eux. C'est le titre du JDD ce matin. Eux, ce sont bien naturellement Marine Le Pen et François Fillon. Marine Le Pen pour les dossiers du financement du Front National. François Fillon pour l'affaire des emplois présumés fictifs. Le gouvernement qui estime, par la voix du garde des Sceaux ce matin, que malgré la campagne, aucune trêve ne s'impose à la justice. Notre campagne présidentielle qui fait désormais débat dans le monde entier, le Parisien, aujourd'hui en France, rapporte que toute l'Europe, les États-Unis scrutent maintenant, comme nous, les derniers événements de cette campagne 2017 avec une couverture à l'international qui est vraiment inédite pour cette campagne présidentielle. La planète entière se demande si après le séisme du Brexit, après l'élection surprise de Donald Trump, eh bien le sort de l'élection française pourrait lui aussi être le nouveau choc. À la une de vos quotidiens régionaux, l'agriculture, encore et toujours, avec cette une de West France, avec en photo la mascotte du salon, on en parlait tout à l'heure, c'est Fine, cette vache bretonne, mais surtout sa photo dans son contexte, c'est pas celui de l'affiche officielle du salon d'agriculture, mais Fine est chez elle, dans la ferme des Sept Chemins, en Loire-Atlantique, avec son éleveur, il s'appelle Cédric Briand, et il dévoile sa principale qualité. Fine, elle ne fait pas de bruit, dit-il, c'est sa principale qualité. Merci à la Dépêche du Midi qui donne aussi notre adresse de Sud Radio ce matin, puisque nous sommes au salon d'agriculture, vous le savez, et bien la Dépêche du dimanche donne rendez-vous sur ces vitrines du salon. Et à ce titre, on élève en Occitanie qualité en tête. On en reparlera évidemment avec nos invités. La Dépêche qui accuse également le coup après la défaite du 15 de France jugé trop vert face à l'Irlande avec ce score que vous connaissez, 19-9. La guerre des ondes est déclarée selon Var Matin. Dans le département provençal, les champs électromagnétiques sont envahissants, y compris au milieu des champs. Var Matin explique comment ces ondes gênantes sont maintenant assez présentes dans le département varois et comment également s'en protéger. La Provence qui fait monter la température avant le choc des Titans, le classico OM-PSG, c'est ce soir au Vélodrome. 4 mois après le match aller, les équipes connaissent des trajectoires maintenant très différentes depuis quelques semaines. Le PSG qui étonne d'un côté, l'OM qui décline de l'autre côté. Quel est le rapport de force aujourd'hui et tout peut-il basculer? Réponse ce soir donc à Marseille. L'actu ne s'arrête jamais avec Pierre-Maël Tisnes. Pierre-Maël, évidemment, nous sommes au Salon de l'Agriculture et nous allons nous intéresser, on l'a dit, au compte sur les réseaux sociaux. C'est un best-of agriculture, évidemment.
Oui, j'ai essayé de me fondre un petit peu dans la couleur locale, Philippe, effectivement. Après quelques recherches, figurez-vous, donc j'ai pu me rendre compte que la campagne était bien loin d'être déconnectée. Bien au contraire, le réseau passe bien dans les verts pâturages de l'Hexagone. Alors, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui sont particulièrement efficaces sur les réseaux, notamment Twitter, effectivement.
Alors on a même quelques véritables champions du message, puisque on rappelle quand même la règle d'or, c'est 140 caractères maximum, même les blancs
sur Twitter,
sont contents.
On ne peut pas écrire plus de 140 caractères sur Twitter, effectivement. Et ces agriculteurs, vous le disiez, effectivement, sont très efficaces. Fini le cliché du fermier juché sur un tracteur hors du temps. Désormais, ils pilotent des drones, ils dirigent leur moissonneuse avec un joystick et donc ils communiquent sur Twitter. Il y a d'ailleurs de sacrés accros. C'est le cas par exemple d'Hervé Pilot, le vice-président de la FDSEA de Vendée, éleveur de son état. Il est présent au salon de l'agriculture cette année, évidemment. Il compte pas moins de 6000 abonnés environ sur Twitter. C'est quand même pas mal sur ce réseau, avec forcément des tweets qui sortent un peu de l'ordinaire. Il parle évidemment des problématiques agricoles, mais aussi quelques sorties plus politiques, comme lorsqu'il évoque le mouvement Nuit Debout, c'était en 2016, des tweets plus étonnants, donc, mais qui replacent aussi l'agriculteur comme citoyen actif de notre communauté, pas comme simple fournisseur pour nos frigos, et ça on a quand même souvent tendance à l'oublier.
Alors est-ce que vous avez d'autres exemples ?
Oui, la FNSEA, je vous le disais, occupe forcément bien les réseaux. La viticulture, par exemple, s'est trouvé un défenseur, un porte-parole virtuel en la personne de Jérôme Despé, le secrétaire général adjoint de la FNSEA. Et les femmes sont aussi bien représentées, avec Karen Serre, notamment, l'ancienne présidente de la commission des agricultrices de la FNSEA. Elle est désormais présidente de la TRAM, c'est une association d'accompagnement des agriculteurs pour le développement agricole et rural, et elle tweet énormément, notamment sur ces questions d'agricultrices. On en parlait hier dans Regard de Femmes, ces agricultrices donc présentes dans, qui ont une place assez difficile, compliquée dans le milieu rural, dans le milieu agricole. Xavier Belin, qui nous a récemment quitté, était lui aussi très présent, très actif sur Twitter. L'ancien président de la FNSEA était suivi par près de 8000 abonnés environ. Il avait bien compris, lui aussi, l'importance d'occuper les réseaux sociaux pour faire exister les revendications des agriculteurs.
Alors on rappelle évidemment que la mort de Xavier Belin, c'est un événement qui est un traumatisme, qui a été évidemment salué hier avec la présence du président de la République, qui a dévoilé une plaque qui est ici à l'entrée du salon d'agriculture et qui sera ensuite déplacée dans Paris près du siège de la FNSEA. Vous avez quand même un petit peu plus léger pour finir, Pierre Maël ?
Oui, quand même, parce que on ne voudrait pas plomber tout de suite l'ambiance, même s'il est important de se rappeler de la mémoire de Xavier Belin. Comment passer, de toute façon, vous le disiez tout à l'heure, à côté des comptes officiels des mascottes, Philippe. L'an dernier, Cerise avait le
sien. C'était Cerise, c'est ça, j'avais oublié.
Voilà, Fini, dorénavant, c'est Fine, pardon, Fini, elle n'est pas finie du tout. Fine, la pinoire bretonne, vache, qui fait office de mascotte cette année. Donc, elle a également son compte Twitter. C'est assez drôle, il faut vraiment le suivre lorsqu'elle tweet, par exemple. On peut être Fine et peser 450 kilos. Voilà, Fine qui fait partie de la plus vieille race de vaches françaises, faut le savoir, avec la charolaise. La pinoire bretonne a frôlé l'extinction, il en reste 2000 environ aujourd'hui.
Pas l'extinction de voix parce qu'on les entend d'ici.
On va éviter, il faut faire attention. Et donc les pinoires bretonnes, elles étaient plus de 700 000 têtes tout de même, recensées au début du 20e siècle. Voilà, il en reste 2000 aujourd'hui et vous pouvez donc voir la mascotte ici au salon de l'agriculture, bien représentée par Fine, cette race de vaches. Un dernier mot, Philippe, pour ceux qui nous écoutent et qui sont sur les réseaux sociaux, si vous avez programmé de venir au salon de l'agriculture, on vous conseille bien évidemment le Twitter du salon 2017. Simple, pratique, particulièrement complet pour recueillir toutes les infos possibles sur cette 54e édition.
L'actu ne s'arrête jamais. Pierre-Maël Tisnes. On parlait du digital, il est très présent maintenant au cœur de la vie des agriculteurs et c'est parfois une solution pour sortir petit à petit de cette crise. Bonjour Jean-Michel Lamotte.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes agriculteur dans les Landes, à Aire-sur-l'Adour. Vous êtes également fondateur du site votremachine.com. Alors expliquez-nous ce que c'est.
Alors votremachine.com, on part d'un constat qu'aujourd'hui le matériel sur l'exploitation agricole coûte très cher et que notre constat, il apparaît qu'il est souvent peu utilisé. Donc à partir de ce principe, on dit l'idée c'est quand même d'essayer de le louer, de le rentabiliser chez d'autres agriculteurs. Et nous donc notre rôle c'est de connecter donc un utilisateur avec un propriétaire. Voilà.
Donc évidemment, avec de la géolocalisation, ça sera du matériel qui est bien sûr à proximité de l'exploitant qui en a besoin. Et c'est un site de partage de matériel comme ça existe pour les particuliers. Je pense par exemple à des sites connus comme Ziloc. C'est l'équivalent.
Oui, tout à fait, ouais. Brivy, voilà. C'est en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que faire baisser les coûts de mécanisation d'exploitation agricole et donc de le louer à un autre agriculteur. Et voilà, donc ce qu'on propose, c'est de gérer toute la partie administrative, mais aussi de proposer une géolocalisation pour que le propriétaire suive son matériel chez un autre agriculteur pour
Autrement dit, un agriculteur qui a besoin ponctuellement d'un tracteur parce qu'il lui en manque un ou qu'il en a besoin pour une durée vraiment très temporaire peut faire appel à votre plateforme qui s'appelle votremachine.com et demander à un autre agriculteur de lui louer ce matériel.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, est-ce que ça leur apporte aux agriculteurs, justement ? C'est aussi une source de revenus pour eux ?
Ah oui, ça peut ne pas être négligeable. Nous avons, nous, des agriculteurs l'an dernier, puisque nous n'avons qu'un an d'existence, et on a des exploitations agricoles qui sont allées au-delà de 10 000 euros de location. Donc, ce n'est pas neutre sur un compte de résultats, surtout avec des prix faibles tels qu'on les a connus sur les deux
derniers. Par exemple, un agriculteur qui loue son tracteur peut gagner plusieurs milliers d'euros ?
Ah, tout à fait, oui. Nous, ce qu'on dit, voilà, un tracteur qui est loué 150 heures dans l'année, donc on va dire deux périodes de 15 jours, procure une baisse de 20% du coût de cette machine.
Oui, c'est une manière également d'amortir le coût de ces machines agricoles qui coûtent parfois très très cher aux exploitants, des exploitants qui ne sont pas toujours, évidemment, qui n'ont pas toujours le retour sur investissement dans des délais assez courts.
Tout à fait, oui.
Votremachine.com.
Voilà. Votremachine.com. Voilà. Donc l'idée.
Votremachine.com. Ça commence à bien prendre et à plaire énormément aux agriculteurs qui y participent. Merci Jean-Michel Lamotte. Bonne journée. Merci d'avoir été sur Sud Radio avec nous ce matin. Il est 7h15, on fait un point sur l'actualité. Le journal, ce sera avec Marjorie Péjac dans une demi-heure. Avant cela, quels sont les principaux titres, Pierre-Maël Tisnes ?
De violents heurts hier à Nantes en marge d'une manifestation de protestation. C'était contre la venue de Marine Le Pen à Nantes. Donc 11 policiers gendarmes blessés, plusieurs vitrines brisées par les casseurs. L'hôtel de ville également visé, il a été tagué. 4 interpellations ont eu lieu. Marine Le Pen, d'ailleurs, toujours dans le viseur de la justice. Un de ses proches, Frédéric Chatillon, a été mis en examen hier dans l'affaire du financement des campagnes électorales de 2014 et de 2015. Enfin, pas de miracle pour les Bleus dans le tournoi des 6 nations hier en Irlande. Les Français qui s'inclinent sur la pelouse de l'Aviva Stadium 19-9. Les Français qui n'ont plus rien à jouer dans ce tournoi des 6 nations. Un mot de météo, soleil toujours dans le sud et l'est, mais les nuages reviennent par le nord-ouest avec de faibles pluies. Cet après-midi, les températures sont en hausse. Il fera 13 degrés à Paris, 14 à Toulouse, 15 degrés à Lyon et à Marseille.
Sud Radio. Façon de parler.
Et nous allons maintenant nous occuper de notre façon de parler dans notre langage. Il y a des mots qui reviennent un peu plus que d'autres en ce moment. Bonjour Jeanne.
Bonjour Philippe.
Alors quel mot avez-vous choisi cette semaine ?
Eh bien, un mot qu'on n'entend plus tellement on l'entend, qui est le mot campagne. En ce moment, vous ne pouvez pas échapper à ce mot.
Non.
Campagne présidentielle, on a des campagnes anti-tabac, des campagnes pour les vaccinations, contre le gaspillage. Même si l'expression semble moins utilisée, en fait, on l'entend constamment.
Bon, et cette campagne, là, en ce moment, qu'est-ce qui en est à l'origine ?
Alors, Philippe, au départ, la campagne, c'était simplement une vaste étendue de plaine, c'est une évidence. Logiquement, si vous avez une vaste étendue devant vous, vous pouvez explorer cet espace. Vous pouvez donc battre campagne. Et si vous êtes militaire, vous pouvez manœuvrer avec vos troupes, combattre, d'où la campagne militaire. Donc, c'est l'idée d'opération militaire, d'expédition militaire. Mais Philippe, dans ce vocabulaire de soldat, la campagne, c'est le contraire de la place forte, parce que les troupes peuvent se mouvoir sur un terrain qui n'est justement pas bloqué, pas fortifié. Mmh. Et la campagne est devenue, dans le temps, non pas uniquement le terrain où l'on se déplace, mais le synonyme d'une période. Une période de temps durant laquelle se produit une intense activité particulière, comme des militaires obligés de mettre en œuvre un maximum de moyens pour atteindre un but précis. En 71, on trouve cette définition de la campagne politique. Elle est décrite comme une campagne qui, justement, permet de réunir l'ensemble d'opérations de propagande qui précèdent une élection.
Bon, alors, Jeanne, on distingue bien ce qu'il y a avant une élection. C'est ça, la campagne.
Oui, et on entend beaucoup ce mot actuellement. Ça ne vous étonne plus, parce que la campagne présidentielle a été, je dirais, réexacerbée par le fait qu'il y ait les primaires. Il y a la campagne officielle avec la succession de spots télé chronométrés, la campagne, je dirais maintenant, sur les réseaux sociaux, mais avec le quinquennat et les primaires, c'est comme si les hommes politiques étaient désormais toujours en campagne. C'est pour ça que le mot vient tintinabuler à notre oreille.
Tintinabuler, c'est joli ça. Et avec au passage un vocabulaire, vous le disiez tout à l'heure, qui est vraiment militaire.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'inconscient collectif, il y a toujours quelque chose de juste. Et dans la campagne, on attend des résultats, comme les militaires qui montent et qui mènent campagne, mais la campagne, elle est là pour conquérir le pouvoir. Donc on sait que les candidats veulent persuader et convaincre, et ça n'est pas un hasard, qu'on ait des termes, par exemple, on a entendu à propos des Russes récemment qu'ils avaient fait assaut de pirates informatiques contre une certaine campagne dont on se souvient. On voit vite, on a parlé aussi de François Fillon, et j'ai pas envie de porter de jugement, mais on a remarqué qu'autour de lui, le vocabulaire était violent. On a pu lire dans la presse, campagne contre François Fillon, tentative de meurtre politique. On voit bien qu'autour du mot campagne est resté cet aspect combatif.
Mais Jeanne, est-ce que ce mot de campagne, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui remis en cause par les réseaux sociaux, par la société connectée ?
Alors Philippe, comme toujours, oui, c'est juste ce que vous dites là, parce que la campagne politique, c'est un mot qui est presque avant qu'il y ait autant de médias. Maintenant, avec les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a beaucoup de campagnes spontanées. On se souvient du Hollande bashing. Alors, on ne peut pas décider d'un seul coup, en revanche, sur les réseaux sociaux, quand est-ce que l'on va mettre fin à une campagne médiatique ? Parce que le citoyen est en conversation permanente avec les médias. Écoutez, je vais vous raconter une chose. On a même une appli que l'on peut télécharger et qui permet de mener une campagne anti-Trump. Anti-Trump. Vous voyez bien, près de 125 000 personnes, Philippe, ont déjà téléchargé cette appli.
Pas mal.
Bref, la campagne, bientôt, ne sera peut-être plus un moment repérable. On voit bien que, comme toujours, la société accélère, beaucoup de phénomènes nouveaux se conjuguent et les mots sont en train de grandir et de bouger.
Et c'est ce qui se passe dans notre façon de parler en ce moment. Merci Jeanne Bordeaux. La campagne, évidemment, au sens large, c'est toute la matinée sur Sud Radio, puisque nous sommes en direct du Salon International de l'Agriculture.
Sud Radio, tout est classique, Pascal Gallet.
Bonjour à tous. Je vais vous faire entendre ou réentendre aujourd'hui les opéras de Wolfgang Amadeus Mozart les plus connus. Mozart n'avait que 11 ans. Vous rendez-vous compte, chers auditeurs, que 11 ans lorsqu'il composa l'opéra Apollo et Hyacinthus, qui était une comédie latine destinée à être jouée par les étudiants. Ce qui est frappant chez Mozart, c'est sa précocité en matière de création musicale. Vous rendez-vous compte de ce génie ? Mozart a écrit entre autres 19 opéras. Je m'installe maintenant à mon piano pour vous faire partager ma passion pour Mozart. Et je vous joue un extrait des Noces de Figaro. Ou encore l'opéra Don Giovanni, dont je vous joue un extrait maintenant. Écoutez. Souvenez-vous du commandeur dans le film Amadeus, avec son masque et sa cape noire. Eh bien, il s'agit en effet de l'opéra Don Giovanni. Ça nous rappelle l'orchestre. Écoutez les violons qui font des pizzes, c'est-à-dire qui pincent les cordes. Voici pour vous la rappeler.
Are we going to appall you with something confidential and disgusting?
La musique du film Amadeus.
So, because that is what you really like. Unconfessed crimes of buried wickedness. If that is what brings you to us, the prospect of hearing horrors. You shall not go unrewarded.
Pour vous quitter, je ne peux résister au plaisir de vous faire entendre un extrait de l'un des chefs-d'œuvre que Mozart a écrit, La Flûte Enchantée. Mozart n'a pas pu terminer cet opéra à temps, car il décéda juste avant. On dit qu'un de ses élèves a écrit l'orchestration en suivant à la lettre les conseils de son maître Wolfgang Amadeus Mozart. Tout est classique.
Merci Pascal Gallet. On a une autre mélodie puisque les moutons commencent à se réveiller. Ça commence à bêler méchamment ce matin au salon d'agriculture. 7h24. Et sur Sud Radio ce matin, nous recevons une personnalité, une voix que vous connaissez bien sur Sud Radio. Évidemment, on ne le présente plus. Si Romain Chastelier, bonjour.
Bienvenue dans C'est Tendance de 19 à 20 heures chaque jour.
Exactement. Là, on vous reconnaît bien. Rediffusion également le week-end. C'est Tendance avec Olivier Monsens. Mais oui. Vous venez, Romain, ce matin, nous parler d'une nouvelle aventure qui est synchronisée d'ailleurs avec le démarrage du salon d'agriculture. C'est un magazine magnifique qui s'appelle Life and Farms. Hein, la vie et les fermes, on peut traduire ça comme ça ou...
Oh, bah oui, on a fait un peu anglo-saxon parce que comme on est un magazine agricole lifestyle, c'était important effectivement d'être dans ça. Le mot life, c'est important parce que c'est le mot vie, ça traduit une forme de vitalité, etc. Et donc bon, vous dites que c'est une autre aventure. Non, c'est la même aventure en fait. Moi,
ah bon,
je suis un gros spécialiste de la tendance, donc évidemment sur
Origine
Sud Radio. Bah pas trop, puisque je suis quand même, j'aurais du mal à vous donner une légitimité de paysan, etc. Je suis un typique bobo parisien, il faut le savoir. Mais en même temps, pour faire ce magazine, je me suis associé à un authentique paysan chevronné, puisque je le fais aussi avec le patron des rédactions de Réussir, qui est un journal
Michel
agricole,
Collonge.
Michel Collonge, que je salue au passage, qui est un vigneron. Et non seulement c'est un journaliste, mais en plus c'est un vigneron. Et donc tous les sujets là, qui sont sortis de mon chapeau, finalement, j'en ai discuté aussi avec Michel. Et à chaque fois, je me disais, mais est-ce que je ne vais pas trop loin dans le registre parisien, très grand public, hors agricole, etc. Il m'a dit, non, c'est super, allons-y gaiement. Voilà. Et donc,
alors,
c'est un
doux mélange. C'est vrai que c'est un magazine donc rural. On voit être à chaque page du magazine, mais en même temps, ça ressemble à un magazine tendance, à un magazine de mode. Les photos sont extrêmement soignées et le rédactionnel aussi. Fait penser à des magazines extrêmement tendance.
Alors rédactionnel, moi je suis fier de mon équipe là, que je salue au passage.
Il y a des gens, très varié. Hein.
Il y a des gens qui viennent de Voici, il y a des gens qui viennent de Technicart, il y a des gens qui viennent de la presse féminine comme Marie-Claire. En fait, j'ai voulu vraiment avoir le spectre, une équipe de journalistes vraiment très chevronnée et avec un certain sens de l'humour. C'était extrêmement important pour nous de traduire à la fois le réel, une forme de réel de l'agriculture, et en même temps de pouvoir mettre de l'humour par-dessus, parce que ce magazine se veut résolument optimiste, en fait, c'est ça qui...
Alors, par exemple, une chronique, là, je feuillette au hasard, Vue du tracteur...
Oui, voilà, on a un peu joué. Vue du tracteur, c'était l'interview de Stéphane Bern.
Ouais.
Tracteur et poulailler, on a fait un roadshow, enfin, j'ai fait un roadshow puisque je suis allé en Turquie à la recherche de la cerise turque. Vous savez que la Turquie est le premier producteur de cerises.
Ils font pas mal de noisettes aussi. Oui,
ouais, ils font aussi des noisettes. Alors, bonne culture générale.
Ah ouais. D'ailleurs, quand il y a eu des intempéries, ça fait flamber le prix de la Nutella, parce que c'est un grand pays producteur de
noisettes. Le Nutella, qui est un produit un peu cher, hein, tout de même,
bon.
Un peu industriel.
Bon, il n'est pas question de ça dans le magazine. Qu'est-ce que cette vision de la nature, de la ruralité à travers ce magazine, elle représente quoi? Parce que vous êtes sociologue également. Aujourd'hui, dans la tendance.
Si vous voulez, moi, j'ai écouté cette semaine que le campagnard Bérou s'associait au citadin Macron. Et alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, mais c'est totalement prémonitoire. J'ai dû en rêver en faisant ce titre.
Vous aussi, vous avez une alliance
mais
entre
c'est
ces
pas
deux
ça,
mondes.
Mais si vous voulez, ce magazine, c'est vraiment la convergence marrante entre les gens des villes et les paysans, en fait. C'est là-dessus, c'est sur cette espèce de nouvelle compréhension mutuelle que repose ce magazine. C'est beaucoup plus qu'une envie de verdure pour les citadins, ce magazine, et c'est beaucoup plus qu'une forme de sympathie des agriculteurs pour les gens des villes. C'est une espèce de vraie symbiose qui semble apparaître entre effectivement des gens des villes et des gens des campagnes. Peut-être parce qu'on a besoin, si vous voulez, plus que jamais aujourd'hui, d'un bon vieux sens paysan. En fait, on a probablement une autre dose de complexité économique, de complexité politique aussi et peut-être de démesure aussi, et on a sans doute envie d'avoir quelque chose qui s'apparente au bon sens paysan au-delà du populisme, au-delà de tout ça. Et ce bon sens paysan, c'est peut-être ce qui sauvera la situation. Ouais.
Life and Farms, comment le trouver ce magazine? Alors édité à 300 000 exemplaires,
oui,
pour
voilà,
le premier numéro, c'est un beau démarrage. Hein.
Il est bien distribué au sein de l'agriculture où il faut venir, hein, ne serait-ce que
pour voir Sud Radio,
un petit
et
peu,
pour
voir évidemment Sud Radio et au salon de l'agriculture, et puis pour découvrir ce que c'est effectivement ce monde. Hein, je crois qu'il y a 400 000 jeunes aujourd'hui qui sont investis, qui vont faire un métier tous les ans en rapport avec l'agriculture. C'est pas rien.
Alors, revenons au magazine, on va le trouver au salon d'agriculture, ouais. Et puis
au salon d'agriculture, un peu partout dans les trains, mm-hmm. Dans les sorties des bouches de métro, c'est vraiment...
Ça va se développer,
puis, ça va se développer ouais. Effectivement, en région, il va y avoir une série de points de stockage. Alors, la distribution, je n'ai pas géré ça, je ne vais pas vous inventer la réponse, mais bon, voilà, 300 000 exemplaires, il y en aura un peu partout.
Life and Farms.
À ne pas rater.
Voilà, merci Ronan Chastelier, passez un bon week-end.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt sur Sud Radio déjà.
Avec la carte MyPMU, découvrez les pronostics de Jean-Paul Delperrier. La carte MyPMU, c'est toujours plus d'avantages. Demandez vite votre carte MyPMU.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Quels sont les pronostics aujourd'hui ?
Le Grand Prix de Paris nous est proposé aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec une distance de 4150 mètres. 13 partants, c'est la course 4 de la Réunion 1. Et cette très belle épreuve va mettre aux prises notamment le numéro 13, Bold Eagle, qui est un véritable crack et qui reste sur plusieurs victoires. Il tente de remporter la triple couronne. Le 8, Bélina Josselin, deuxième du Prix d'Amérique, derrière qui Bold Eagle. Le 3, Briac d'Arc, a été préparé avec soin par Thierry Duval d'Estaing, son nouvel entraîneur. Attention au numéro 6. Lionel, qui n'est autre que le tenant du titre et qui retrouve Orion Kjellström au sulky. Le 9, Burt Parker. Cette distance devrait l'avantager. J'ai ensuite fait confiance à l'as Sauveur, mon coup de cœur. Et le 4, Valco Ginella, qui fait preuve de constance. 13, 8, 3, 6, 9, as et 4. Ma sélection du jour en Réunion 3, course 4 à Angers. Le numéro 4, Rose Gary.
Merci Jean-Paul, à tout à l'heure.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La météo Sud Radio.
Avec Ogeux, l'eau minérale gazeuse qui respire les Pyrénées.
Avec du soleil qui résistera sur les Pyrénées, près de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône et également dans l'Est. Mais les nuages sont de retour sur le nord-ouest ce matin avec quelques gouttes. Elles seront rares cet après-midi entre le Limousin et la Champagne-Ardenne. Les températures en hausse avec 13 degrés à Paris, 14 à Toulouse, 15 à Marseille et jusqu'à 17 à Perpignan.
Le Grand Matin Week-end Sud Radio, 7h, 10h, en direct du Salon de l'Agriculture, Philippe Verdier.
Et avant 8h, de nombreux rendez-vous avec des invités ici au Salon de l'Agriculture, au Sud Radio est présent, vous le savez, ce week-end et notamment pour le Grand Matin Week-end. On parlera de miel dans quelques instants, parce que le miel c'est important, évidemment le sujet de la préoccupation de la préservation des abeilles, évidemment. On en parlera avec nos invités, avec mon miel justement, du miel personnalisé, puis également comment parrainer des ruches. Parfois on se pose la question, et bien il y a des solutions, et on en parlera dans quelques instants. Notre styliste personnel Isabelle Thomas sera également avec nous, rhabillez-moi pour la campagne, et oui on peut rester tout à fait chic en étant dans les champs, c'est notre belle des champs Isabelle Thomas. Elle sera d'ailleurs avec nous dans quelques instants. Elle est très guillorette ce matin, elle a envie de chanter Isabelle. Et puis Valérie Leroy sera également avec nous. Valérie Leroy, c'est la patronne du Salon International de l'Agriculture. Elle nous dira comment elle dirige cette plus grande ferme de France, qui est vraiment un endroit tout à fait exceptionnel. Pendant quelques jours, là se concentre énormément d'activités, en plus avec une couleur particulière cette année sur fond de campagne pour la présidentielle. Et naturellement, nous retrouverons tout à l'heure, comme d'habitude, comme tous les dimanches, Bruno Dubois pour sa sélection musicale.
La voiture, c'est pas que pour les mecs. Laurence Perrault.
Bonjour Laurence.
Bonjour Philippe.
Alors, en direct du Salon d'Agriculture tout le week-end, c'est Sud Radio. Et la voiture, c'est pas que pour les mecs, part à la campagne.
Et ben voilà, on part à la campagne parce que conduire derrière une moissonneuse-batteuse, c'est pas non plus que pour les mecs. Oui, bah ouais, voilà.
Parce qu'on s'agace. Ah bah, on a vu de ralentir là.
C'est ça, j'ai voulu profiter de la plus grande ferme de France qui s'est installée à Paris jusqu'au 5 mars pour vous parler code de la route et obligation de circulation pour les moissonneuses-batteuses que nous allons de nouveau croiser
Qui sont soumises au code de la route.
Ah bah, même plus que ça, vous allez voir. Alors, moi je suis assez fan du côté bucolique de ce genre de rencontre. Ça sent bon les longues journées ensoleillées d'été, la campagne, les blés dorés, les grands espaces de notre beau
pays.
On est
dans plein cœur du salon là.
Mais quelquefois, en voir une sur notre trajet ne nous fait pas beaucoup sourire, surtout si vous êtes pressé. Alors Philippe, voilà, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous prenez le temps de vivre, vous abaissez les vitres, nez au vent, à humer les très belles fragrances du blé mûr coupé quelques instants auparavant.
Alors,
et là
pas,
vous
pas
vous
trop
mettez
loin du pot d'échappement de la moissonneuse-batteuse non plus.
À fredonner. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé.
Donc la météo, c'est qu'il pleuvra demain.
Se laissant porter par les courants.
Arrêtez de me tripoter.
Vous voyez, là on est dans l'été, on est dans les vacances. On est. Voilà, ça c'est la première solution, vous vous laissez porter. Ou alors, la deuxième solution, vous râlez. Et là, eh ben, vous m'entendez dans votre poste de radio, vous expliquez les règles à savoir quand on prend la route avec une moissonneuse-batteuse. Les moissonneuses-batteuses circulant sur la route entrent dans la catégorie des convois. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle dépasse la largeur réglementaire de 2,55 m. Mais Il y a deux cas qui vont se proposer à vous. Ensuite, la moissonneuse batteuse est considérée évidemment comme le convoi agricole groupe A, donc moins de 3,50 m de large sur la chaussée, ou plus de 3,50 m, c'est le groupe B. Après, il y a aussi des histoires de longueur de la moissonneuse.
On repasse le code ce matin.
Oui.
Le code de campagne.
Si vous avez ou si vous croisez une moissonneuse du groupe A, la machine...
C'est pas le groupe sanguin.
Elle mesure donc moins de 3,50 m de large. Elle doit circuler avec un ou deux gyrophares et ses feux de croisement doivent être allumés. Quant
Laurence,
à la vitesse
Laurence,
maxi...
comment vous voulez que je sorte mon centimètre pour mesurer la taille d'un véhicule qui est devant moi?
Je sais pas, vous regardez, vous voyez bien. Si
j'ai pas le compas dans l'œil.
ou plus. Côté vitesse, la maximum ne doit pas dépasser 40 km/h pour les moissonneuses batteuses de groupe A, donc celles qui font 3,50 m de large. Ça va, vous me suivez?
Il y a des radars dans les champs?
Non, il y a pas des radars. Maintenant, vous avez une moissonneuse batteuse du groupe B. Donc là, vous la reconnaissez. Elle fait plus de 3,50 m de large. C'est comme une grosse...
On a compris. Groupe B, c'est la grosse.
Voilà, c'est ça. Et bien là, il vous faut les feux de croisement. Il faut un véhicule pilote en fin de convoi et un souvent en début de convoi. Ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment important. Et ils doivent respecter une distance de 150 mètres entre eux et la moissonneuse batteuse pour bien prévenir tout le monde et bien protéger tous les autres usagers de la route. Ah mais attendez, c'est technique la moissonneuse batteuse, mon bon monsieur. Est-ce que vous savez si elles ont le droit de circuler sur toutes les routes?
Pas sur autoroute en tous les cas, non?
Alors là, je suis d'accord avec vous, mais juste sur leur département ou les départements limitrophes. Si elles quittent les départements limitrophes, elles sont obligées d'être montées sur un convoi qui va les déplacer. Elles ne peuvent pas, par exemple, si vous en avez une qui est de Toulouse, elle peut pas aller rouler toute seule jusqu'en Bretagne. C'est pas possible.
Il faut qu'elle soit convoyée.
Il faut qu'elle soit convoyée, voire même montée sur un gros camion. Voilà. Et puis il y a des petits croisements difficiles. Bon, faut faire attention. Soyez prudents et chantez. Ils se sont cachés dans un grand champ.
Bon, en tous les cas, les tracteurs, les moissonneuses batteuses, elles ne sont pas ici à Versailles, elles sont exposées à Villepinte, dans l'autre parc expo, au nord de Paris, en même temps que ce salon d'agriculture. Merci Laurence.
Merci Philippe.
Sud Radio 7h39, on est toujours en direct du Salon d'Agriculture sur le stand Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, avec notre invité qui est apiculteur. On va parler de miel à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Jean-Bernard Jamon-Boyer.
Bonjour.
Vous êtes apiculteur dans le Puy-de-Dôme.
Oui, en Auvergne, Puy-de-Dôme et Haute-Loire.
Sur pas mal de sites. En fait, vous avez plusieurs ruches qui sont disséminées.
On a trois ruchers disséminés sur...
Parlez bien près du micro parce que vous savez, les moutons vous font concurrence.
voilà, trois ruchers disséminés sur le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, dans le secteur du Brioude, du Brioude. Vadois, près de Clermont-Ferrand et dans le bassin du Puy-en-Velay.
Alors, votre projet que vous venez présenter ici au Salon d'Agriculture, c'est Mon Miel. Qu'est-ce que c'est Mon Miel?
Mon Miel est une société de l'économie sociale et solidaire que j'ai créée en 2011, après une rencontre avec les abeilles en 2009 qui a déclenché une véritable passion. Je suis tombé amoureux
avant d'être, apiculteur. Vous aviez un autre métier?
Ah, tout à fait, j'étais dans le monde du business, du transport et de la logistique. Et en parallèle, je suis devenu apiculteur amateur et la passion a été dévorante, grandissante, jusqu'à devenir apiculteur.
Donc une passion aujourd'hui que vous faites partager au point de donner accès aux ruches, avec évidemment tous ceux qui veulent être sensibilisés par les abeilles peuvent parrainer des ruches, les vôtres.
Tout à fait, parce qu'en plus de pouvoir se régaler avec délicieux miel, les abeilles, c'est un monde fascinant, un univers passionnant et j'ai eu envie de transmettre cette passion. Pour la petite anecdote, en 2010, pour l'anniversaire de chacune de mes plus grandes nièces, je leur ai offert une ruche à chacune, qu'elles ont personnalisée, et leur ai donné le miel de leur ruche en fin de saison apicole, et j'aurais pas pu leur faire plus plaisir. C'était un cadeau génial à l'heure où tous les enfants ont quasiment tout. Là, on a créé un lien fort avec les nouvelles générations et les abeilles, donc ça a été magique, et j'ai eu envie de permettre au plus grand nombre de partager cette joie.
Et c'est sans doute cette histoire personnelle qui est à l'origine du projet que vous venez, dont vous venez nous parler ce matin, également avec notre autre invité qui s'appelle Marie de Croque. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante dans la même région à peu près? Vous habitez pas loin l'un de l'autre?
Nous sommes en Auvergne.
Et vous avez tous les deux écrit un livre sur les abeilles, un livre à destination des plus jeunes, des enfants. Racontez-nous.
Tout à fait. Donc ce livre est né d'une rencontre, donc la rencontre de Jean-Bernard, apiculteur, et moi, enseignante. J'ai eu l'occasion de mettre les mains dans la ruche avec Jean-Bernard
Et ça ne pique pas forcément.
Non.
Voilà, il faut y aller doucement. Hein.
Au contraire, j'ai été complètement séduite par les abeilles. Mmh. Et nous nous sommes dit oui. Oui pour la conception d'un album de littérature de jeunesse, dans lequel le lecteur est happé par une belle histoire, tout en apprenant sur le monde des abeilles.
Alors ce qui est sympa avec ce livre, c'est qu'il est connecté. Ça veut dire que les enfants qui auront accès vont suivre l'histoire que vous racontez dans le livre. Mais également, quand la saison va démarrer là dans quelques mois, Jean-Bernard, les enfants auront accès aux photos pour suivre la vie de la ruche quasiment en direct.
Tout à fait. Le lecteur va s'inscrire et pouvoir recevoir, tout au long de la saison apicole, des fiches pédagogiques, des photos et des vidéos de la vie du rucher pour apprendre et découvrir l'univers fascinant des abeilles.
À quoi ça sert de parrainer une ruche aujourd'hui ? Beaucoup ont envie de s'investir, d'aider à la protection des abeilles. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?
Alors, concrètement, on peut agir pour l'avenir des abeilles en favorisant la création de nouvelles colonies, donc de nouvelles ruches, que l'on installe dans des endroits préservés et que l'on gère avec respect, c'est-à-dire dans le respect du rythme biologique de l'abeille. Et c'est nous ce que nous souhaitons faire et ce que nous faisons chez Mon Miel en mettant avec nous et en recevant le support et le soutien des gens, nous permet d'installer de nouvelles colonies d'abeilles. Les gens suivent la vie de leur ruche et à l'automne, ils reçoivent directement chez eux les pots de miel.
Ça, c'est la satisfaction, c'est la récompense. Et ça coûte combien une ruche ?
Alors, on a souhaité rendre les choses accessibles au plus grand nombre, à chacun son budget, à chacun sa ruche.
Mais combien coûte une ruche ? Après, je vous demanderai pour les participations.
Ah voilà, tout à fait. Une ruche. Ça dépend si elle est en bois, en plastique. Enfin, voilà. Une ruche, c'est une grosse centaine d'euros. Plus l'essaim d'abeilles qui vaut environ 150 euros. Donc vous êtes aux alentours des 250 euros pour une ruche et sa colonie d'abeilles.
Mon Miel, avec donc Jean-Bernard Jamon-Boyer qui a été avec nous et Marie Decroc, co-auteur du livre Nos abeilles, un livre à destination des plus jeunes. Merci d'avoir été avec nous. Donc vous êtes ici au Salon d'Agriculture.
Ici sur le Salon d'Agriculture et sur monmiel.fr.
Et sur monmiel.fr. Merci, bonne journée. Sud Radio, 7h44.
Le Grand Matin Week-end Sud Radio, 7h, 10h, en direct du Salon de l'Agriculture. Sud Radio, rhabillez-moi.
Tu veilles, nanana, mais pas du rage.
Cette femme qui chante à l'antenne, c'est Isabelle Thomas pour Rhabillez-moi. Pourquoi ? Parce que c'est Rhabillez-moi pour aller à la campagne. On est au Salon de l'Agriculture ce week-end sur Sud Radio. Et justement, on a envie de prendre l'air des champs. Vous êtes une belle des champs, Isabelle, avec de magnifiques fleurs sur votre chemisier.
Ah oui, belle des champs, c'est moi, Philippe.
Bon, alors la tendance justement pour rester chic à la campagne.
Alors déjà, la règle numéro un, c'est de choisir des vêtements dans lesquels on se sent à l'aise, donc pas trop serrés. Mais la règle numéro deux, ce sont des vêtements, prendre des vêtements qu'on aime. Hein. Pourquoi on devrait supporter un cardigan sans forme qu'on déteste porter à la ville, une chemise qui serre le ventre, un jean qui dégringole les poches aux genoux, un pull fatigué qui gratte sous prétexte qu'on part au vert.
Alors parfois aussi, Isabelle, on hésite à prendre ces beaux vêtements parce qu'on se dit, ah, il y a peut-être de la gadoue, peut-être qu'on peut salir aussi en étant à la campagne, c'est ça
l'idée.
Oui,
mais là, il ne faut pas exagérer. On ne va pas prendre son nouveau jean blanc tout neuf au risque de le salir. Mais ce n'est pas une raison pour prendre justement les pulls boulochés qu'on déteste. Alors, on fait simple sur les bas. On leur demande juste d'être confortable, de s'adapter sans réfléchir à tout ce qu'on va porter en haut. Alors, un jean, hein, ça va de soi, un jean bien confortable. Moi, j'aime bien les salopettes en jean, mais...
C'est vrai que c'est un petit côté rural. Avec une fourche dans la paille, on s'y voit déjà. Hein.
Mais tout le monde n'est pas d'accord. Ou un chino, c'est-à-dire un pantalon en toile ou un joli pantalon en molleton de couleur, si on n'a pas envie de se serrer la ceinture.
Et puis l'été ?
L'été, ben on prend un short. C'est quand même un short un peu plus ou moins court, plus
Alors,
ou moins frangé.
Ça, c'est pour le bas. Maintenant, sur le haut, vous avez une recommandation à nous faire.
Non, on n'est pas radin sur les hauts. C'est-à-dire on peut mettre de la joie dans sa petite valise 24 heures ou 72 heures à la campagne avec un t-shirt qui pétille, rouge coquelicot, vert gazon. On laisse de côté le noir et le blanc, le gris, c'est pas drôle. On prend une marinière, un t-shirt imprimé. Justement, le t-shirt qu'on adore, mais qui fait des ordres en comité de direction. Là, c'est vraiment le moment de l'emmener avec soi. Alors, une chemise vitaminée à carreaux, comme moi aujourd'hui. aujourd'hui avec des petites fleurs pour faire rosir les premières pâquerettes. Vivement l'arrivée des pâquerettes. Et puis une chemise en jean. La chemise en jean va avec tout et on peut la porter en veste.
Bon, et même si on se rapproche des beaux jours progressivement, faut quand même pas oublier la petite laine.
Ben, évidemment, la petite laine, le gros pull, mais pareil, un pull gris, rouge, orange ou un sweatshirt. Et on n'oublie pas non plus son écharpe en coton ou en laine. Qui peut
pour les fins de journée, un
pour
peu
les
plus
fins
fraîche,
de journée, ouais. À porter sur les épaules ou autour du cou.
Bon. Voilà. Et pour les femmes, alors un autre conseil?
Je trouve que les robes sont assez faciles à vivre à la campagne. Alors évidemment, hein, pas la robe délicate, mais là, une robe chemise en denim, par exemple, on peut la porter avec des bottes en caoutchouc ou des sabots ou des motardes.
En fait, on peut aussi assumer le côté caricatural du look campagne quand on parle de sabots ou de chemise à carreaux.
Ah oui, les bottes. Il y a des jolies bottes en caoutchouc, les bottes d'équitation en caoutchouc qui coûtent vraiment pas cher. Ça, c'est vraiment l'idée. À la campagne, elles sont assez fines, c'est plus joli que des bottes de pêcheurs, souvent. Oui. Et ça peut très bien se porter avec une robe ou un jean slim étroit. Et justement, à propos de chaussures, tant qu'à faire, on prend deux paires de chaussures, des baskets
une
tout terrain.
Une qu'on peut salir. Une
basket,
une
oui, propre. Des baskets qu'on peut salir. Et puis les bottines increvables pour crapahuter. Et bien sûr, le coupe-vent, parce qu'on ne sait jamais, il peut pleuvoir à la campagne. C'est rare, mais ça peut arriver.
Tout est possible. Et Isabelle, on retrouve évidemment tous les détails et même les images, hein, c'est important aussi, sur votre blog.
Sur Mode Personnel.
Merci, bonne journée.
Au revoir Philippe.
Le Grand Matin Week-end Sud Radio, 7h-10h, en direct du Salon de l'Agriculture.
Il y a des petits bruits qui ont été rajoutés comme ça sur nos génériques. Mais là, ce que vous entendez derrière moi, si jamais vous tendez un petit peu l'oreille, c'est la réalité. Là, la lumière vient maintenant de s'éveiller dans le pavillon du Salon de l'Agriculture dans lequel Sud Radio s'est installé. Et on entend de plus en plus les moutons, les brebis, les béliers qui se sont réveillés, qui sont tout autour de nous. On est très très bien accueillis sur le stand de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, et également le stand de l'IRCALIM. L'IRCALIM, c'est l'Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire, et nous sommes avec son président, Pierre Ginèbre. Bonjour.
Alors, bonjour. C'est son directeur, par contre.
Vous êtes directeur, d'accord. Voilà. Bon, faire très attention au titre, comme ça tout le monde est content ce matin. Merci déjà de nous accueillir sur votre stand au Salon d'Agriculture. Qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui? Vous valorisez plus de des centaines et des centaines de produits de terroirs de qualité dans la région Occitane?
C'est cela. Donc on accompagne en fait 250 produits qui sont des produits donc sous démarche qualité, donc sous signe officiel.
Alors quand vous dites produits, en fait ce sont des produits terroirs que tout le monde connaît, qui viennent de la mer, de la terre, enfin
voilà,
des produits alimentaires bien sûr.
Voilà, on trouve des produits, donc ça va du vin en passant par des fromages, en passant donc du rocamadour, on va mettre quelques noms, du rocamadour, du roquefort, de la soupe de poisson, des huiles d'olive, du vin bien sûr. De l'Armagnac, voilà. On accompagne les agriculteurs ou les industries de la transformation qui souhaitent mettre en avant leurs produits dans des démarches officielles de qualité.
Alors voilà. Tous ces produits, naturellement, on les connaît, ce sont des produits souvent de tradition. Ils ont encore besoin d'être soutenus aujourd'hui?
Alors, de plus en plus, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture, en fait, est en train de vivre une révolution et la mondialisation en est un des phénomènes qui marquent beaucoup l'agriculture à l'heure actuelle. Et ces signes de qualité sont une alternative pour maintenir du territoire, pour maintenir de l'activité ancrée dans le territoire. Et tout cela dans un accompagnement économique de développement de filières.
Alors, vous en parlez aujourd'hui, vous insistez également sur le rôle du consommateur. C'est aussi lui qui peut aider à la promotion des produits, au maintien de ses traditions et ses produits de terroir.
Tout à fait. C'est-à-dire que le consommateur passe son acte d'achat, qui devient un acte militant, en fait, soutient l'économie locale, soutient le maintien d'une agriculture vivable et vivante sur le terrain, et maintient aussi des ateliers de transformation. Alors, on parle là de petites transformations, de petits ateliers de transformation qui permettent d'occuper le territoire.
Alors, à l'IRCALIM, justement, vous avez plusieurs initiatives pour attirer l'attention et soutenir tous ces produits, alors notamment avec un club des calivores. Qu'est-ce
voilà,
que c'est
alors,
ça?
Les calivores, c'est un club qui regroupe tous les gens qui sont intéressés par ces problématiques et qui veulent nous accompagner sur ces problématiques. Donc en fait, ce sont des consommateurs qui adhèrent donc à ce club. C'est totalement gratuit. Il suffit d'aller sur le site internet de l'IRCALIM. Et on peut...
IRCALIM, IR... IRCALIM. IRCALIM comme qualité, bien sûr, voilà. Alimentaire.
Voilà, et là, donc, on remplit donc ces coordonnées, et comme ça, on est informé de toute l'aventure des signes officiels, ce qui se passe, les nouvelles démarches qui arrivent. On a aussi, bien sûr, quelques promotions.
Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous donnez des recettes.
Tout à fait.
Il y a quoi, par exemple? Mettez-nous alors, là, la bouche. Avant qu'on retrouve Jean-Luc Petit-Renaud sur Sud Radio à 10h, allez-y.
Voilà, alors, on trouve des recettes à base de produits, tout à fait, je les vois, je les ai juste à côté, donc on a des produits, des recettes à base de rocamadour, à base de roquefort, à base d'huile d'olive, de porc noir de Bigorre, ouais. Voilà, qui permettent de mettre en valeur simplement ces produits-là, sans trop se compliquer, puisque l'objectif, c'est que quand même la cuisine et la nourriture restent un plaisir. Et donc ça permet de mettre en valeur ces produits-là assez simplement.
Sur le marché mondial qui est très concurrentiel, ces produits-là de qualité extrêmement locaux, ils ont encore leur place?
Ah, tout à fait, tout à fait. Même peut-être plus qu'avant. Il faut comprendre que dans les années 80, au moment où l'IRCALIM a été créé, ces démarches qualité représentaient sur la région Midi-Pyrénées, puisqu'au départ c'est une initiative des producteurs de Midi-Pyrénées, représentaient à peu près 8% des chiffres d'affaires de l'agriculture de Midi-Pyrénées. Mmh. Et maintenant, sur la grande région, on représente à peu près 25% du chiffre d'affaires de l'agriculture hors vin. Ça veut dire que si on rajoute les vins, voilà.
Pour qu'on soit très concret au niveau alimentaire, ces produits dont on parle, citez-les, donnez-nous quelques exemples.
Alors, je peux vous donner...
Peut-être les plus méconnus.
Les plus méconnus. Alors, les plus méconnus, je dirais, c'est peut-être... si maintenant, ils ne seront pas très contents, mais je dirais
moins
peut-être...
Moins connus du grand public. Voilà,
moins connus du grand public. On peut parler de l'oignon doux des Cévennes.
Ah.
Qui est un produit très caractéristique. Le dernier qui est arrivé, donc l'olive de Luc, qui date de quelques jours. Mmh. Voilà. On peut parler peut-être aussi de... Vous allez me poser une
question. Alors, les plus connus, maintenant.
Ah, les plus connus, c'est peut-être les vins. Ouais. Donc, on va retrouver les Corbières, les Minervois. On va retrouver aussi les Comtés Tolosans en IGP. Mmh. On va retrouver les Frontons, les Gaillacs.
Plus de 250 produits, voilà. que vous soutenez à l'IRCALIM, Institut Régional de la Qualité Agricole et Agroalimentaire. Cette région, naturellement, c'est l'Occitanie. Et c'est sur votre stand que Sud Radio s'est installé pendant toute la durée du Salon d'Agriculture. Merci beaucoup, Pierre Ginèbre.
Merci.
Directeur de l'IRCALIM. Merci beaucoup. Bonne journée. La musique dans Grand Matin Week-end de dimanche, c'est avec Bruno Dubois. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe. Et aujourd'hui, je veux vous annoncer ceux qui annoncent leur grand retour en ce jour sur le Salon de l'Agriculture.
C'est la danse des canards, non?
Non, c'est le papa pingouin.
Il n'y a pas de canard, non.
Le papa pingouin, le papa pingouin.
Bah oui.
Il y a des fondamentaux quand même,
bah
Philippe.
Oui, bien sûr.
Non, je veux vous parler de Lana Del Rey. Ah, une voix
sensuelle, hein.
Étonnante. Ça fait connaître il y a 5 ans, ça a été un succès explosif, c'est parti instantanément, c'était fulgurant. Et la semaine dernière, elle a fait le buzz parce qu'à Los Angeles, oui à LA, il y avait des affiches un tout petit peu partout, très énigmatiques, qui annonçaient un événement pour Lana Del Rey. Et finalement, ce « Coming Soon », c'était un nouveau single. Vous y êtes? Vous avez un peu de paille là?
Ah, c'est bon là.
Eh ben voilà, la voix est toujours là. Alors les tweetos aussi sont à fond, moi aussi, pour le buzz, et l'album est annoncé, paraît-il, avec beaucoup de conditionnels pour septembre. Eux aussi, ils annoncent leur arrivée. Imagine Dragon.
Ça aussi, on l'a beaucoup entendu.
Ah,
hein.
C'est clair, hein, des titres comme Demon, Radioactive. Ils annoncent leur arrivée avec un nouveau titre pour leur troisième album. On ne sait pas encore quand ça va sortir. En tout cas, là aussi, c'est un succès qui a été fulgurant, car le début de leur carrière, pour ces quatre Américains, date de 2012. Et le nouveau titre s'appellera Believer.
Ça percute bien. Hein.
Et il y a les mêmes ingrédients. Ils ont la secret sauce. Je parle beaucoup anglais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire ce côté hymne, hein, cette chanson qui nous emmène très très loin. On imagine les images du clip justement.
Hein. Ouais.
On est dans des grandes étendues. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Ça, c'était donc ceux qui annoncent leur retour. Les albums vont arriver. Ils teasent bien. Il faut que j'arrête avec l'anglais. Ça tombe bien puisqu'on va parler de Grand Corps Malade aujourd'hui. L'album est sorti ce vendredi. Il s'appelle Passion, Grand Corps Malade, Passion. Mais c'est surtout la bande originale de son premier film en tant que réalisateur et l'adaptation cinématographique de son autobiographie. En voici un petit extrait.
Ça, c'est pas sa voix, rassurez-nous.
Eh oui, là ça slam.
C'est la victoire qui existe. C'est cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le bout de la.
C'est un conteur d'histoire, le slammer. Qu'est-ce que vous en pensez? Le film sort mercredi.
Mercredi prochain, réalisé aussi par Mehdi Hidi. Hein.
Tout à fait.
Passion.
Tout à fait. Bien. Hein.
Ouais, pas mal.
Ouais, pas mal, pas mal. Bah écoutez, je vous souhaite un bon salon de l'agriculture.
Bon, révisez vos cours d'anglais pour la semaine prochaine. En tous les cas, vous avez enflammé le salon de l'agriculture, pas très très loin. Et on se retrouve dimanche prochain.
J'adore votre côté cocorico.
Merci Bruno.
L'horoscope Sud Radio.
Avec votre voyance par téléphone au 3232.
Et c'est avec Cassandra, bonjour.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 février. Bélier, tout semblera aller pour le mieux. Cette fin de mois se révélera bénéfique, réjouissez-vous. Taureau, la planète de la rigueur viendra inspecter votre ciel astral et tout va se mettre en place selon vos souhaits. Gémeaux, vous aurez beaucoup de pression en ce dimanche, mais ça ne durera pas. Faites confiance à votre intuition. Cancer, un changement de vie se profile à l'horizon et vous en avez très envie. Aussi, profitez de ce jour de repos pour faire le bilan. Lion, tout vient à temps pour qui sait attendre. Prenez patience, le temps travaille pour vous et les résultats seront au-delà de vos espérances. Vierge, de vieilles histoires familiales viendront gâcher l'ambiance de cette fin de week-end. Évadez-vous. Balance, vous prendrez place et vous vous situerez mieux dans l'avenir. C'est une belle avancée dans votre remise en question personnelle. Scorpion, la passion vous conduira à des excès que vous pourriez regretter. Réfléchissez avant d'agir car vous risquez d'être fortement déçu. Sagittaire, avec un certain recul, vous analyserez le bilan de cette semaine et vous serez plutôt satisfait de vos décisions. Capricorne, les soucis s'envoleront et vous vous tournerez vers d'autres envies. N'hésitez pas à tourner la page, c'est ce qui vous conviendra le mieux. Verseau, vous allez vous laisser convaincre de ce qui est bien pour vous. Attention, vous ne serez pas toujours très objectif. Et enfin les poissons, la paix qui vous entoure rejaillira sur votre morale. Entre nature et spiritualité, vous serez juste bien et tout le monde en profitera.
La météo Sud Radio.
Avec Ogeux, l'eau minérale gazeuse qui respire les Pyrénées.
Et avec toujours une journée très ensoleillée sur les Pyrénées, sur la vallée du Rhône également, dans l'est du pays. Mais il y a du changement, il arrive par le nord-ouest ce matin, ce changement. Ce sont des nuages qui vont porter des pluies très très fines, des pluies qui seront plutôt discrètes sur une partie de la Bretagne, de la Normandie. Cet après-midi, ça va se décaler entre le Limousin, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne. Le ciel restera quand même très nuageux sur les régions de la moitié nord. Le soleil fera de la résistance quand même encore sur les Pyrénées, dans tout le sud-est et dans l'est du pays. Et les températures changent un petit peu. Il y a beaucoup moins de gelée qu'hier matin. Il fait déjà beaucoup plus doux sur les régions de l'ouest et notamment en Bretagne. Cet après-midi, ces températures vont culminer, elles seront en hausse 13 degrés au maximum pour Rennes, pour Nantes et pour Paris. Il fera 14 à Toulouse, à Agen et à Bordeaux. Température de 15 degrés à Lyon, à Marseille et à Montpellier, 16 à Clermont-Ferrand et 17 à Perpignan.